des polars et des notes.
Lectrices, lecteurs, françaises, français, mais aussi tous ceux qui vont le devenir, français ou lecteurs, bonjour, bienvenue sur Radio Évasion pour notre rendez-vous mensuel d'exploration des dernières nouveautés parues au rayon littérature noire. C'est des polars et des notes. Menu de printemps au sommaire, manipulation, vengeance, révolte, mouvements sociaux et crânes rasés criminels, tout y passe. De la CIA au mieux de sa forme vénéneuse, aux manœuvres policières afin de noyauter les gilets jaunes ou les embûches abominables semées sur le chemin des pauvres gens cherchant refuge en France. Bien entendu, toutes les références des romans dont nous allons parler sont disponibles sur le webzine 404. Donc pas de panique si vous n'avez pas retenu un éditeur ou un titre, il n'y a rien de perdu. Mathis s'accroche à sa table de mix comme un gabier assez au banc, c'est signe de bon son et de beau temps. Il est temps d'entonner Le Chant de l'Assassin, le dernier roman très noir de R.J. Ellory, paru chez Sonatine Éditions. Alors ça raconte l'histoire d'Evan Riggs qui est emprisonné à vie pour un meurtre et il ne sortira jamais du pénitencier de Reeves. Aussi charge-t-il son co-détenu Henry Quinn qui n'a purgé que 3 ans de transmettre une lettre à sa fille Sandra qu'il n'a jamais vue. Rien de plus simple, sauf que pour délivrer son message, Henry devra passer par Carson Riggs, le frère d'Evan, qui est shérif de la petite ville de Calgary dans le West Texas, un pays de dur à cuire. Le pauvre Henry va vite comprendre qu'il a mis les pieds dans un nid de vipères et que nul, surtout pas Carson, ne l'aidera à retrouver la jeune fille et qu'il devra se débrouiller seul ou presque à ses risques et périls. C'est un magnifique roman noir du grand cru façon Ellory, puisé au même tonneau que Seul le silence ou Vendetta, pour les connaisseurs bien sûr. Et comme Evan et Henry sont tous deux guitaristes, le bouquin regorge de références musicales. J'ai choisi T-Bone Walker, I Got the Blues.
Sometimes I sing the blues when I know I should be praying. Sometimes I sing the blues when I know I should be praying. For I share the world's troubles is why I feel this way. I wake up some morning, feel like I wanna cry. I begin to sing the blues, yes, to ease my worried mind. I was born with emotions, and a song was in my soul. The other parts of my story, it may never be told. If I only knew when my trouble would end. When my troubles would end, I'd kiss bad luck goodbye and start all over again.
Partons ensemble à Baltimore, la ville de la merveilleuse série TV The Wire, à la recherche de Maggie Hexton en compagnie de Zoe Shepard, qui, bien que absolument débordée, a accepté de nous consacrer quelques minutes. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Alors après l'administration française, l'administration américaine ?
Tout à fait. Donc non, parce que je n'allais pas quand même tirer toute la série jusqu'à Zoé à l'EHPAD. Donc je cherchais une idée qui puisse m'occuper pendant quelques années et j'ai trouvé donc cette idée qui a débouché sur Maggie Hexton.
Alors Maggie Hexton, on pourrait croire que c'est un thriller, c'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients, il y a un tueur en série qui est super flippant, qui s'appelle le cinéphile, il y a un flic très particulier, Thomas Lynch, qui fait que manger, enfin ils ont tous leur petite manie, mais en fait, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est avant tout un roman noir politique ?
Oui, tout à fait, bien sûr, c'est un roman noir déguisé en thriller.
Parce que en fait, le tueur en série n'est pas au centre du roman, il n'est qu'un épiphénomène et le vrai thème, c'est les abus de pouvoir et le passage du bien commun au bien privé.
Oui, exactement, oui, bien sûr, parce que bon, faire un thriller et puis faire uniquement entre guillemets un thriller, moi ça me semblait compliqué. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ancrer une histoire dans le réel. Mais c'est ce que j'ai fait avec mes trois premiers, quoi. Enfin, ils sont ancrés dans le réel. Bon, là, effectivement, j'ai dû faire beaucoup plus de recherches parce que je ne vis pas à Baltimore. Mais c'était vraiment une envie de ma part d'ancrer une histoire dans des faits réels et puis de dénoncer, entre guillemets, un état de fait, la paranoïa des États-Unis après l'11 septembre.
Donc en fait, le tueur en série, le cinéphile, c'est un tueur de femmes, de jeunes femmes blondes, qui a la particularité de les déguiser en Grace Kelly quand il rend les corps. Et jusque-là, c'est un tueur en série classique, jusqu'au moment où Maggie Hexton, qui est l'épouse du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, qui disparaît. Et là, ça prend une toute autre dimension.
Oui, parce que maintenant, il faut l'attraper. Voilà, parce que sait qu'il à chaque fois qu'il dépose un corps grimé, donc embaumé et grimé en personnage incarné par Grace Kelly, une autre disparition survient. Et le jour où la quatrième victime est découverte, Maggie Hexton disparaît. Donc de là à y voir un lien de cause à effet, bon bah c'est vite fait. Et effectivement, on démarre l'enquête sur où est Maggie Hexton et donc. Où est le cinéphile ? Qu'est-ce qui a pu arriver ? Et après, on élargit.
Et donc, à ce moment-là, tant que c'est des jeunes femmes anonymes, c'est pas trop grave. Et là, tout d'un coup, on met tous les moyens. C'est-à-dire qu'en plus de Thomas Lynch, le flic dont on avait parlé, débarque Jack Miller, qui est un copain du chef de cabinet adjoint, qui est un ex du FBI, un peu particulier, mais qui est un enquêteur privé. Et son copain Peter, qui est un geek misanthrope. Disons-le, qui déteste absolument tout le monde, et qu'à tous les trois, ils vont essayer de découvrir où est Maggie Hexton, et dans un deuxième temps, qui est Maggie Hexton.
Voilà, parce que généralement, quand une personne disparaît, il faut savoir, bon, essayer de retracer chronologiquement les derniers endroits où elle a été aperçue, et essayer de comprendre si dans sa vie, il n'y a pas quelque chose qui expliquerait sa disparition. Donc c'est comme ça que l'enquête démarre.
Et vous y ajoutez le FBI, qui est représenté par un abruti absolument total, qui s'appelle Lewis. Et c'est... Oui. Franchement, le FBI ne sort pas grandi de l'affaire.
Non, mais en fait, le FBI sort toujours grandi de tout. Enfin, que ce soit des films, des livres. Et il se trouve que ce sont quand même des êtres humains, donc il y en a forcément des incompétents dans le lot.
Ah là, vous êtes tombé sur le meilleur, là.
Ouais, voilà, j'ai voulu créer un personnage, en fait, totalement normal, avec des travers, avec des ambitions carriéristes, mais qui n'a pas le cerveau qui va avec. Voilà, donc l'agent Lewis.
Ouais, et donc ils vont petit à petit s'apercevoir qu'il y a bien autre chose derrière la disparition de Maggie Hexton. Et là, on va arriver dans les zones sombres du pouvoir américain, dans les magouilles de la CIA. C'est des choses qui ont été beaucoup décrites dans la littérature. Et vous mettez un petit peu en parallèle le crime privé et le crime d'État.
Alors, ça a été beaucoup... alors, les expérimentations de la CIA sur les êtres humains au début de la guerre froide, donc notamment MKUltra, que j'ai décrit dans le livre, ont été effectivement beaucoup exploitées dans la littérature. Mais très souvent, j'ai remarqué que ça dérivait sur du fantastique. Vous prenez Stephen King avec le personnage de Charlie, ses parents ont été des cobayes volontaires pour MKUltra et leur enfant en fait a des pouvoirs de télékinésie, pyrokinésie et autres. Vous prenez Stranger Things, qui est une excellente série, pareil quoi, enfin je veux dire la mère de Eleven a été cobaye volontaire pour MKUltra, donc on dit qu'elle a reçu des injections de LSD et sa fille donc a des pouvoirs de télékinésie. Et moi, je voulais vraiment ne pas dériver sur le fantastique, déjà parce que bah, si on pouvait éviter de me comparer avec Stephen King, ça m'arrangerait, parce que c'est pas une comparaison dont je sortirais grandi, et que je voulais être au plus près de la réalité. Donc c'est ça qui m'intéressait, être vraiment au plus près de la réalité. Et c'est là où j'ai eu en fait la chance de voir que tous les rapports déclassifiés de la CIA étaient sur leur site internet, et où j'ai commencé à avoir vraiment de la matière brute que j'ai pu exploiter dans Maggie Exton.
Il faut voir que ça a duré pendant des dizaines d'années, que ça a commencé juste après la guerre et que oui. Ça n'a été révélé que par Clinton et encore dans des rapports qui ont été expurgés considérablement.
Oui, parce que dans les rapports, vous avez du crayon noir, quand même, enfin régulièrement du crayon noir, mais on arrive quand même à trouver pas mal de choses et c'est en accès libre, donc c'est bon, peut-être c'est bien quoi.
Est-ce que vous exposez aussi, c'est l'influence de plus en plus grande des capitaux privés dans le bien public, dans ce qui devrait être commun et ce qui revient à l'État?
Oui, la sécurité, là c'est les entreprises de sécurité privée pour que l'État, en fait, en cas de problème, puisse dire qu'ils ne sont pas directement responsables. Que c'est la société privée qui allait bien au-delà de ce qu'on leur demandait. Alors qu'en fait, c'est faux. Les sociétés privées, comme la société de sécurité dont je parle, enfin voilà, ce type de société exécute les ordres que l'État leur donne.
Et la recherche. Et la recherche scientifique, et ça pose des gros problèmes d'éthique.
Voilà, il y a des. Après, dans la recherche, souvent, vous avez quand même des capitaux publics, quoi. Donc, on leur montre une direction, ils la suivent. Mais après, c'est vrai que la phrase qui est sur la quatrième de couverture, dire que la science avance à pas de géant et la politique et l'éthique rampent derrière, enfin, c'est une phrase qu'on entend assez régulièrement, bon, plus ou moins bien, plus ou moins formulée de la même manière, mais le fond est le même, à savoir que vraiment, la science avance très très vite. Et que derrière, ils ont du mal à mettre des règles officielles et officieuses.
Et ce qui est très, 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 très difficile dans votre livre, c'est d'arriver à discerner qui est coupable, qui a tort, qui a raison, etc. Les personnages, ils sont tous doubles, triples, ils appartiennent à plusieurs mondes.
Voilà, parce que je voulais pas de pareil blanc ou noir. Enfin, vous prenez un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Je suis Pilgrim ». Et le personnage, enfin, c'est un super héros, il est au service des États-Unis, les États-Unis ont tout le raison,
ouais.
Et lui, il est blanc. Et je veux dire, c'est vraiment voilà le chevalier blanc qui va sauver tout le monde du méchant musulman terroriste. Et je voulais pas ça non plus, je voulais vraiment des personnages beaucoup plus gris, auxquels bon, on s'attache à certains, j'espère en tout cas, mais qui ont tous leurs travers et voilà, même les personnages de méchants entre guillemets, on se rend compte que finalement ce sont plus des victimes qu'autre chose, et c'était vraiment cet aspect des choses que je voulais développer, quoi, que ce soit pas blanc-noir.
Et qui est Maggie Exton alors finalement?
Sans spoiler, ça va être compliqué. Donc,
Non, mais est-ce que c'est une héroïne? Est-ce que c'est une femme qui est un peu perdue?
Alors déjà, c'est une badass, Maggie Exton, parce que c'est vraiment une femme extrêmement forte qui a mené sa barque du mieux qu'elle a pu et qui, voilà, après avoir vécu des événements quand même extrêmement traumatisants, décide de... je vais laisser le verbe en suspens parce que sinon...
Oui.
Non,
on ne dit pas, on ne dit pas.
Voilà.
Et donc la traque va durer et on s'aperçoit petit à petit qu'il y a tout un monde absolument terrifiant qui se cache derrière les annonces officielles.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'il y a, le discours officiel de défense de la liberté, de défense de la démocratie, de défense de plein de choses officiellement, et il y a ce qui se passe en dehors, à côté, pour justement défendre cette liberté, cette démocratie.
Voilà, parce qu'en fait, les États-Unis ont été traumatisés par le 11 septembre. Une attaque sur le sol américain, jamais il s'y serait attendu. Et surtout pas des avions qui s'écrasent sur des infrastructures. Eux, ils s'attendaient à une attaque qui viendrait du cyberespace. En fait, ils s'attendaient vraiment à un Pearl Harbor virtuel. Donc, ce sont des. Le gouvernement a été traumatisé et ils ont perdu la tête, en fait, au lendemain du 11 septembre. Par exemple, le FBI s'est mis à interroger des milliers de musulmans uniquement parce que du fait de leur religion. La CIA, qui perdait vraiment de la vitesse à la fin de la guerre froide, bon, elle ne servait plus à grand-chose puisque la CIA a été créée justement pour la guerre froide, directement au lendemain de la guerre. Donc, pour lutter contre les communistes, à partir du moment où les communistes, bah, il n'y a plus grand-chose et que la Russie n'est plus l'ennemi avec un grand E, bon, la CIA n'a plus grand-chose à faire. Et là, en fait, ça lui a redonné un second souffle. Donc, ils ont mis toute leur énergie à lutter contre un ennemi totalement diffus, parce que enfin c'est le terroriste, c'est très vague, il peut être partout. Et tous les moyens ont été bons pour prévenir une nouvelle attaque. Donc de l'hypersurveillance, une parano totale et absolue. Mais peut-on vraiment leur donner tort? Enfin, je veux dire, le 11 septembre, ça les a totalement traumatisés. Moi, je vais pas me permettre de juger en disant « quand même, les gars, c'était pas grand-chose ».
Vous exagérez un peu.
Non, mais voilà, enfin, c'est quelque chose, on n'y est pas, donc c'est compliqué, mais on ne peut que constater que les libertés sont de plus en plus réduites.
Alors, pour vous faire une idée, moi, je vous recommande le livre de Zoé Shepard, de Maggie Exton, qui est paru aux éditions Stock, dans la collection Arpège. Il n'y a pas beaucoup de musique, mais il y en a un petit peu, et vous en servez pour... Enfin, vous dites que la CIA s'en sert pour torturer les gens. Nous, on va écouter Iron Maiden, Holy Smoke, parce qu'il y a pas mal d'écrans de fumée, quand même, dans votre bouquin. Merci beaucoup, Zoé Shepard.
C'est moi qui vous remercie.
Reptile and all his friends say they gotta be with you at the end. Burn.
Diu, le retour. Rappelez-vous Diu Bocanera qui a surgi l'an dernier dans le paysage polar, une détective privée niçoise, fille cachée de Mike Hammer et Nestor Burma, mettant le mystère Knockout à coups de Doc Martens. La voilà de retour dans Après les chiens, paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire. Et Michel Piadinelli nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, Diu vous se met au sport et la voilà contrainte de sortir à l'aube le clébar de ses amis, Dag et Clara, qu'elle a accepté de garder. Et comme la plupart des gens tomberaient sur n'importe quoi, une pièce ou quelque chose, elle tombe sur un cadavre d'un jeune érythréen, naturellement.
Bah oui, forcément, ça serait trop simple. Déjà, elle se met à courir. Elle fait un peu violence, hein, mais elle se dit que bon, c'est une solution pour essayer de retarder l'inéluctable. La pauvre, j'ai fait une illusion. Et donc, elle a réussi. Oui, on lui a confié un chien, un gentil chien, qui s'appelle Scorsese, qui a du poil partout et qui a la fâcheuse manie de la réveiller très, très, très tôt. Donc, du coup, elle s'est dit, OK, je vais courir avec ce clébard. Et effectivement, bah, pendant l'une de ses courses, elle tombe sur le cadavre d'un jeune homme qui est roué de coups. Enfin, elle tombe, disons que c'est Scorsese, bien sûr. Hein,
bien sûr.
Qui va détecter le corps avant elle. Et puis voilà, donc c'est le point de départ de cette histoire. Alors, bien sûr que bah, y a... Donc, on retrouve un peu les mêmes personnages, parce qu'il y a son ex qui va débarquer. Son ex, il est commandant de police.
Joe.
Donc c'est à lui de... Voilà, Joe, c'est à lui de faire le boulot, hein, de l'enquête policière, finalement. Et elle est un peu... quand même un peu frustrée de cette situation-là.
Message. Elle insiste pas trop.
Et donc, finalement, bon, bah, c'est son autre pote, Ferdi, le SDF muet et allemand, qui va lui demander au moins de retrouver l'identité de ce jeune homme, parce qu'il y a sûrement une famille qui l'attend quelque part. Donc voilà, elle va partir sur la piste essayer de remonter la piste de ce jeune homme qui est arrivé à Nice en passant par l'Italie.
Mais en dilettante, parce qu'en même temps, il faut dire, elle est sage, c'est parce qu'on lui a confié une autre affaire aussi. Elle doit rechercher une jeune fille qui s'appelle Mélodie, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses, et donc elle va enquêter sur Mélodie, et effectivement elle va essayer de rendre service à son copain SDF en trouvant l'identité du migrant qu'elle a découvert, mais les deux affaires vont se mêler. Et il y a aussi entre-temps une histoire qui se passe beaucoup plus tôt, dans les années 1942-1943, à la frontière italienne.
Oui, tout à fait. Il y a un récit qui commence. C'est un tout jeune homme. Il a 13 ans. C'est un récit qui commence en 1943, en septembre 1943 précisément, parce que c'est le moment où c'est au moment de la chute de Mussolini. Donc jusqu'à présent, les Alpes-Maritimes, même jusqu'à Marseille, étaient occupées par l'armée italienne, qui, si elle faisait la chasse aux communistes, aux antifascistes et à tout ce qui pouvait lui résister, a quand même laissé les Juifs tranquilles. C'est-à-dire que les Juifs venaient se réfugier à Nice, entre autres, parce qu'ils n'étaient pas pour chasser. Il y a eu une déportation en 1942, une rafle qui visait les Juifs étrangers qui s'étaient réfugiés à Nice, mais de manière générale, et cette race a été faite contre la vie des Italiens, mais de manière générale, les Juifs étaient plutôt tranquilles.
Oui, Mussolini a même été jusqu'à protéger, je crois, à empêcher une rafle allemande.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Allemands, les Français ont organisé une rafle en 1942 pour faire plaisir aux Allemands, sous les protestations des Italiens. Et d'ailleurs, bon, bah, par exemple, ben, voilà, Simone Veil, la famille de Simone Veil s'était réfugiée à Nice. Et voilà. Et en fait, c'est en septembre 43, quand Mussolini tombe, il y a une espèce de débandade de l'armée italienne, mais qui part vraiment en laissant tout en plan, c'est-à-dire tous les silos de réserve de nourriture, y compris les armes et munitions, etc., et s'enfuit, repart de l'autre côté de la frontière. Et à ce moment-là, la répression absolument terrible, féroce et inhumaine des nazis s'abat sur tous les juifs qui s'étaient réfugiés. Voilà. Donc en fait, ce jeune garçon, on apprend assez rapidement qu'il aide, pour lui c'est quelque chose de tout simple, hein. Il aide des gens à passer de la France vers l'Italie, parce que ces gens-là, pour lui, c'est des gens, quoi, c'est des personnes, sont menacés en France et ils ont une possibilité d'échappatoire en Italie. Donc en fait, ce jeune homme, c'est un passeur. Donc il raconte comment il fait passer des Juifs de France vers l'Italie.
Donc on est en pleine vallée de la Roya, c'est-à-dire la vallée qui est célèbre là avec Cédric Hervieu, parce que lui vient en aide à des pauvres gens qui essayent de venir en France, qui sont perdus dans les montagnes. Et là, c'est dans l'autre sens. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui aident à passer les frontières, parce qu'autrement, il n'y a que la mort.
Oui, exactement. C'est vraiment. En fait, c'est un livre. J'ai fait. Il a failli s'appeler Sur la frontière, parce que c'est vraiment, pour moi, un bouquin. Enfin, il y a des enquêtes, mais le cœur du sujet, c'est la frontière. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Qu'est-ce que c'est que cette ligne à la fois invisible et puis implacable? Et surtout cette frontière franco-italienne qui a beaucoup bougé depuis des années, enfin je dirais des décennies, et surtout qui a été traversée d'un côté et de l'autre depuis des décennies et des décennies. Donc j'ai voulu parler de ces deux situations, la situation 43 et la situation aujourd'hui. Alors je ne sais pas, comment dire, les gens qui aident, les solidaires d'aujourd'hui, ne risquent pas la même chose que les solidaires d'hier.
Non, voilà, on s'en aperçoit dans ton livre d'ailleurs.
Voilà, mais on est sur le même geste de départ. On est sur le geste de simplement tendre la main, parce qu'effectivement, Cédric Hérou, son champ est traversé par la frontière, et quand il a vu arriver des gens avec des tombes aux pieds, épuisés, affamés, frigorifiés, bah, son premier réflexe, comme ceux des autres à côté, c'était de donner un thé chaud, de réchauffer, de permettre à la personne de se reposer, de reprendre son souffle avant de repartir, comme beaucoup de gens dans la Roya. Et c'est ce geste-là, finalement...
Qui est criminalisé.
Qui est criminalisé, tout à fait. Et aujourd'hui, les solidaires de la Roya ne risquent que des peines de prison avec sursis ou des amendes, des choses comme ça. Mais enfin, ils sont quand même gentiment harcelés en permanence.
On les accuse de complicité avec les passeurs, quand même.
Voilà, exactement. Ou même d'héberger des réfugiés. Enfin, bon, de les faire passer. C'est même pas, ils les font pas passer. C'est-à-dire qu'ils les conduisent en voiture d'un village français vers un autre village français. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait passer la frontière. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés au tribunal pour avoir mis dans leur voiture des gens qui voulaient aller d'un endroit à l'autre en France et qui n'avaient pas leurs papiers et qui venaient d'un Tibet. Voilà, donc on en est à peu près là.
Et quand on lâche Diubocanera dans un tel paysage, ça fait un peu du vent, quoi. Parce que la brave Diou va remonter tous les braves... fascistes de ce côté-ci de la frontière, du côté français, qui luttent justement contre les arrivées de migrants, puisque eux, ils peuvent bloquer la frontière, on ne leur dit rien. Ça ne pose absolument pas de problème en France. Et continuer à comme d'habitude, recevoir des coups, se battre, là c'est à coup de batte de baseball, enfin c'est une enquête un petit peu mouvementée, quoi.
Oui, c'est mouvementé. Et puis c'est vrai que la vision de Diou, c'est une vision, je ne veux pas dire ni candide, ni naïve, ni innocente, mais quand même, elle n'est pas dans toutes les arcanes de ce qui se passe. Donc elle découvre au fur et à mesure ce que c'est que le non-accueil des réfugiés chez nous, en France, et ce que c'est que, elle le sait très bien, mais elle va gratter un peu pour voir la réponse de la haine en face, comment ça se met en place. Et ce qui
Surtout que certains de ses amis sont syriens, donc un peu, quoi.
Elle est un peu du côté, bon, enfin, elle a un peu choisi son camp, hein, y a pas de souci, mais simplement parce que c'est quelque chose de... c'est pas une militante, mais pour elle, c'est la moindre des choses, quand on est un être humain, de tendre la main et d'aider ceux qui sont dans la peine et dans la misère, dans la souffrance, et qui ont fait des milliers de kilomètres pour fuir une terreur ou une famine, hein, et que son réflexe, c'est pas de leur mettre le pied sur la tête et les enfoncer, c'est plutôt de les aider, les tirer vers le haut. Voilà, c'est son réflexe un peu bête comme ça qu'elle a. Voilà.
Mais en tout cas, ô combien salutaire.
Voilà. Du coup, elle met toujours les docs là où il faut pas, et parfois elle réfléchit un peu après, et c'est toujours un peu tard. Mais voilà.
Comme Nestor Burma.
Ouais. C'est vrai.
Mais par en lisant ton livre, là, j'ai senti que le ton était beaucoup plus sombre et plus inquiet que dans le premier.
Oui, alors, si tu veux, si ça s'appelle « Après les chiens », c'est parce que, bon, j'adore les chiens, hein, j'en ai, tout ça, puis bon, pas de souci, mais de matière métaphorique, c'est vraiment le temps où les hommes se comportent comme des chiens en meute, quand ils sont dressés par un maître, et qu'ils sont dressés à attaquer, en général, c'est attaquer plus faible que soi. Et moi, je trouve qu'on est dans un temps comme ça qui arrive, hein. C'est pas le premier, ça, voilà, mais on est dans un temps comme ça où on oublie son humanité pour ne plus réfléchir du tout et se focaliser sur, là en l'occurrence, c'est l'étranger, hein, qui est la source de tous les maux. C'est l'étranger qui vient de Syrie ou du Soudan, mais enfin, sinon c'est un Rome, enfin bon bref, et puis ça remonte, hein, ça remonte jusqu'à...
Ou des vieilles dames qui manifestent à Nice.
Ou des vieilles dames qui manifestent à Nice, et au lieu d'être sagement chez elles, à faire du tricot.
Voilà.
Donc voilà, ce temps-là, on y arrive, et à un moment, il faut savoir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. La main qu'on tend ou qu'on ne tend pas, comment on se positionne. Comment on se positionne dans ces temps-là. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus sombre.
J'ai senti comme ça, moi.
Ouais. Non, mais c'est possible. Hein. C'est possible, c'est parce qu'il y a des moments où, bon, tout en se marrant, parce que l'humour, c'est toujours la politesse du désespoir, hein, ça, j'y tiens beaucoup. Mais oui, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont... Enfin, c'est des questions de vie ou de mort. Hein. Les gens qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour essayer d'aller en Angleterre ou en Allemagne, de toute façon, la France, ils savent que c'est pas possible, ils font pas ça pour piquer des allocations familiales, quoi. Ils font vraiment ça parce que...
Le benchmarking.
Voilà. Non, mais, ouais, c'est ça. Ils sont en vrai danger de mort. Ceux qui ont survécu aux traversées de la Méditerranée arrivent ici et essaient juste de survivre. Donc voilà, et je trouve que ça, c'est dramatique que ça soit instrumentalisé et utilisé pour faire peur au bon peuple, quoi.
Ou pour faire voter.
Et voilà. Pour faire voter, par exemple.
Merci beaucoup, Michèle Piedinelli. Je rappelle, le titre de ton ouvrage, c'est « Après les chiens ». C'est paru aux éditions de l'Aube, dans la collection L'Aube Noire, et on va s'écouter un titre du bouquin. Cadillac Walk.
Ah, yeah.
Bah, effectivement, Willie DeVille.
Ouais, avec plaisir.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Merci à toi. Ciao.
When the moon comes up, the sun goes down, little stars to creep around. It's the flame of the blood, fire and breath. 14 names, not small or chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised a sigh, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk, the Cadillac walk, Cadillac walk. She got a Cadillac walk. Now when Rita turned down a bed, grown man, pleading babe, baby, honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't shit something nice? Bones rattle my dice. My baby's got the Cadillac. Cadillac walk. She got the Cadillac walk. She got the Cadillac walk. Lonely late at night, honey, hear my call. She said, boy, I won't make you crawl. Rita, pound by pound, knows how to break it down. We been moaning to and fro. Your heart and steal your gold. Don't matter what the cost, them new legs lost. Make my whole aside, my baby.
got the Cadillac. She got the Cadillac, whoa. She got the Cadillac. She got the Cadillac, whoa.
Cuba à en mourir de Stéphane Pajot aux éditions d'Or Bestier dans la collection Bleu Cobalt. C'est le nouveau polar de Stéphane. C'est un peu la suite du rêve armoricain où on retrouve son personnage de Mathieu Leduc en 1998. Il est toujours journaliste à Nantes et il est en train de fourbir sa vengeance contre celui qui a assassiné sa petite amie et qui l'a fait condamner à sa place à 3 années de prison. Il a retrouvé sa piste à Cuba et se rend sur l'île pour lui régler son compte. Et on le suit de bar en bodega sur les traces d'Ernest Hemingway au milieu des vieilles voitures américaines, dans la paranoïa du régime et ses espions. Ça, c'est la première partie du polar. Et ensuite, on le retrouve à Nantes à son retour. Je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé là-bas. Et au cours d'une fête pour la sortie d'un de ses vieux amis de prison. Et petit à petit, il apprendra le fin mot de son histoire au cours d'un dénouement très surprenant dans un champ de muguet. C'est une histoire d'amitié, de vengeance, d'incitation à la déambulation mémorielle ou exotique. C'est très très bien écrit, c'est très agréable à lire. Moi, je vous recommande Cuba à en mourir de Stéphane Pajot. Il y a plein de musique, dont Omara Portuondo, Tres Palabras.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son. Palabras son como me gustas, ay amor, ay como me gustas.
Allez, il fait pas si mauvais que ça. On va faire un petit tour sur les ronds-points, juste le temps d'enfiler nos gilets jaunes. Pour le premier polar consacré à ce mouvement social, Les Écœurés, c'est un roman de Gérard Deltheil paru aux éditions du Seuil. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors là, c'est le polar qui est en prise directe avec la société. On pouvait pas mieux rêver.
C'est un sujet dont j'avais envie de parler. C'est pour ça qu'il est sorti si vite, non pas pour faire un coup, mais parce que j'ai éprouvé le besoin de parler de ce mouvement.
Mais vous avez dû mettre les bouchées doubles pour sortir un roman aussi vite après le début du mouvement ?
Pas tant que ça. Hein. Je crois que Stendhal a écrit Le Rouge et le Noir en un mois. Alors moi, j'ai mis plus d'un mois pour écrire le mien.
Ouais, effectivement, ouais. Donc ça se passe à Saint-Plénec, qui est un port de Bretagne, et on est au début du mouvement.
On est au début du mouvement, enfin, l'action se déroule à peu près sur un mois, entre trois semaines, un mois, entre le 17 novembre, qui a été le pic de participation au mouvement, et les événements qui se sont succédés ensuite.
Et là, ce que vous racontez, c'est que y a un stagiaire, un jeune flic qui sort tout juste de l'école de police, le lieutenant Devers, qui arrive pour travailler pour son premier poste sur stage à Saint-Plénec. Et son commissaire, le commissaire Berjac, l'envoie infiltrer un rond-point où il y a des gilets jaunes, alors que il a aucune expérience et que lui, son rêve, c'est la crime.
Oui, alors c'est un peu logique de la part de la police, parce que il y a en permanence dans les petites villes des agences qu'on appelait les RG avant, qui sont maintenant la DGSI, mais ils sont connus de la population. Et un commissaire d'une ville de province, il a peu d'indices en fait, quoi. Il n'y a pas beaucoup de délinquance, c'est pas la banlieue parisienne, c'est pas. Donc il a personne pour l'informer, de fait. C'est un mouvement nouveau avec des gens qui sont pas connus. Donc c'est un petit peu c'est pas invraisemblable qu'on envoie un policier qui n'est connu de personne infiltrer le mouvement.
Et donc là, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est que Devers, lui, il est un peu perdu, et ça vous permet de montrer toute la diversité de ce mouvement, tous les gens, tous ceux qui sont là, ceux qui commencent à reparler entre eux, ceux qui commencent à se raconter, à raconter leur contrat précaire, à raconter leur fin de mois difficile.
Oui, alors ça me permet d'avoir la vision d'un personnage extérieur, bien qu'il ne soit pas le seul narrateur du roman, mais ça permet d'avoir la vision de quelqu'un qui est un peu, on peut dire, neutre, qui n'a pas au départ ni particulièrement de préjugés, ni de sympathie, ni d'hostilité, et qui va découvrir tout un petit monde dont il ne soupçonnait pas l'existence.
Et Berjac ne se contente pas de ça. En fait, il y a un leader, bien sûr, sur le rond-point. Enfin, un leader, une tête qui commence à émerger. Bruno, là, c'est un plombier, un chauffagiste. Et vous parlez dans votre roman de la façon dont il est plus ou moins manipulé par la sous-préfète et le commissaire qui essaient de prendre en main, en fait, ce qui se passe sur le rond-point.
Alors, je pense que ça correspond également à la réalité, parce que tous les leaders locaux, qu'ils soient autoproclamés ou qu'ils soient de véritables leaders reconnus par les gilets jaunes, ont nécessairement été contactés par les autorités qui sont à la recherche d'interlocuteurs. Quand il y a un mouvement syndical, on s'adresse naturellement aux syndicats, c'est des interlocuteurs connus, les liens existent depuis longtemps, alors que là, c'est toute une population absolument inconnue qui se lance dans l'action, donc les autorités sont un petit peu désemparées. Et elle recherche les interlocuteurs. Et inévitablement, il y a un dialogue, mais il y a aussi des pressions. Et il y a beaucoup de leaders locaux de Gilets jaunes qui ont subi comme ça des pressions diverses des autorités.
Ils sont très vite retrouvés entre le marteau et l'enclume, en fait.
Ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume, effectivement, et en plus, ils n'avaient pas soupçonné toutes les responsabilités que ça représentait. Parce que les gens se sont lancés dans l'action comme ça, à corps perdu, spontanément, mais ils n'imaginaient pas que ça puisse leur poser tant de problèmes, qu'ils puissent se trouver en prise avec les autorités de cette façon-là. Un leader syndical, il sait qu'il va avoir peut-être des problèmes avec le patron, il le sait d'avance, donc il y est préparé. Et ces leaders-là, ils n'étaient pas du tout préparés à cette situation.
Et comme c'est un polar, effectivement, il y a forcément un accident, il y a quelqu'un qui meurt sur le rond-point écrasé par une voiture.
Alors, il y a une trame polar, et j'ai pas voulu que ça soit une trame rocambolesque. C'est-à-dire, j'aurais pu faire un serial killer sur le rond-point, ou un enlèvement d'enfants sur le blocage du port, ou du trafic de drogue.
Ah, bon, mais là, ça colle à la réalité, là.
Mais là, ça colle à la réalité, c'est réaliste et vraisemblable. Donc l'enquête, c'est plus plat, forcément, une enquête réaliste et vraisemblable sur des faits qui se déroulent en fait quotidiennement dans le pays, qu'une enquête rocambolesque. Mais une enquête rocambolesque, ça aurait détourné l'attention du lecteur. Ça aurait été un petit peu, on serait sorti un peu du réalisme.
Sorti du réalisme et sorti de l'esprit de l'affaire, là, parce que on revient encore à ces histoires de magouilles patronales, etc., et des magouilles comptables. Et on retourne dans la manipulation, parce qu'il y a aussi un policier de la DGSI, comme vous en parliez tout à l'heure, le capitaine Gantois, qui va essayer de manipuler lui aussi le pauvre jeune lieutenant.
Oui, parce que ça lui fait de la manœuvre en quelque sorte. Ils sont que deux on les a incités à aller exercer leurs activités sur un endroit plus chaud, sur Caen, où il y a plus de monde, des manifestations violentes. Donc il est un peu perdu, il manque de main-d'œuvre pour s'informer sur la situation de Saint-Planec. Donc ce lieutenant inconnu de la population lui tombe sous la main et il essaye de l'utiliser, d'en faire un peu son subordonné, sa petite main.
Et à Saint-Planec, qui est pourtant une petite ville portuaire, tranquille, il y a des dissensions dans les Gilets jaunes, et il y a un moment où ça explose, où certains décident de bloquer le port, et d'autres de rester sur leur rond-point, il y a une scission. Et donc Devers va être obligé de faire la jonction entre les deux, enfin, etc., et on aborde tout le reste, les violences policières, etc.
Oui, ça, ce sont des dissensions inévitables qui apparaissent parmi les Gilets jaunes. Il y a des dissensions sur les méthodes d'action, des dissensions personnelles aussi, parce que les rivalités, les petits conflits locaux, tout le monde se connaît dans une ville comme ça. Ces petits conflits prennent beaucoup d'importance. C'est assez inévitable.
Mais ce qu'on s'aperçoit dans votre roman, c'est que tout le monde est perdu, en fait.
Alors tout le monde, oui, est un peu perdu parce que c'est un mouvement sans précédent. C'est un mouvement sans précédent, donc il n'y a pas de référence. Quand il y a une grève, on connaît les références, on connaît les scénarios possibles, les éléments de négociation. Et là, on ne les connaît pas, on ne sait pas jusqu'où peuvent aller les Gilets jaunes, ce qu'ils vont faire. Les autorités sont un petit peu, sont dépassées. Et les Gilets jaunes sont dépassés un petit peu aussi parce que c'est une révolte et c'est pas des gens qui sont habitués à se révolter. C'est pas des syndicalistes, c'est pas des gens qui travaillent dans des grosses entreprises où il y a régulièrement des conflits sociaux. Ils se sont lancés dans l'action, c'est une révolte. C'est des gens qui en ont marre, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce sont surtout des travailleurs isolés, beaucoup de femmes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le pourcentage très élevé de femmes, par exemple, qui travaillent comme aides-soignantes, comme qui travaillent dans des EHPAD, qui travaillent soutien à des personnes handicapées à domicile. Ils sont surreprésentés dans ce mouvement, des gens dont le travail est très dur. Et pas mal de mères célibataires qui, malgré leur charge, arrivent à être présentes dans le mouvement.
Ou des contrats à temps partiel, vous parlez de caissières,
voilà,
par exemple.
Beaucoup d'intérimaires. Ce ne sont pas des chômeurs, et ce ne sont pas des marginaux, et quand ce sont des chômeurs, ce sont des chômeurs récents, c'est des gens qui travaillent, et qui travaillent très dur, souvent de leurs mains. Ce ne sont pas du tout des marginaux, des fainéants, pas du tout.
C'est ce qu'on s'aperçoit en lisant votre livre. Et aussi que le pauvre lieutenant Devers, il va être un peu transbahuté là-dedans comme une boule de flipper, il va rebondir d'un côté et de l'autre. Et il va s'accrocher à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une enquête.
Oui, parce que lui, son rêve, c'est un jeune qui est nourri justement de littérature de polar et bon, qui mythifie peut-être un petit peu le rôle des policiers enquêteurs, de la criminelle, dont le rêve est de mener des enquêtes, pas du tout d'aller espionner des braves gens qui sont sur un rond-point ou qui bloquent un port. Donc il essaie de s'accrocher, et pour se justifier, pour se donner un peu bonne conscience, il mène deux enquêtes. Une sur la mort d'une femme qui a été renversée par une voiture, il soupçonne
Un truc pas trop clair. On va pas trop en dire.
Enfin, un faux accident. Et l'autre sur la case d'un magasin. Donc il va se lancer, ça l'occupe et lui, ça lui donne bonne conscience.
Oui, parce qu'il y a ça aussi. Vous parlez effectivement des casseurs, de la façon dont ça se passe et pas des choses qui sont toujours bien montrées. Et vous parlez aussi de la censure de la presse.
Alors là, il s'agit de la presse APQR, la presse quotidienne régionale, qui n'est pas une presse politiquement très engagée, qui essaye de ménager tous ses lecteurs de gauche et de droite, qui essaye d'être consensuelle. Donc c'est une censure soft. En général, c'est les journalistes se censurent tout seuls eux-mêmes, ils savent ce qu'ils peuvent dire, pas dire. Et là, il y a un jeune journaliste qui, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, saisit l'occasion et a envie d'en parler, d'en dire un peu plus, de rentrer un peu plus dans le fond du problème qu'on lui en demande. Donc, à un moment donné, le directeur des pages régionales va lui dire « Bon, écoutez, calmez-vous un petit peu, ça peut pas passer ».
Eh bien, merci beaucoup, Gérard. Je rappelle le titre de votre bouquin, Les Écœurés, pour vivre au cœur d'un rond-point, une enquête, en plus, une enquête policière. C'est paru aux éditions du Seuil, Gérard Delteil. Donc, il n'y a pas beaucoup de musique dans votre livre.
Ah, si.
Un petit peu.
Vous avez trouvé un autre, d'ailleurs, c'est très...
Ouais, Bella Ciao Macron.
Voilà.
J'ai choisi Nina Simone, Rich Girl, qui était une chanson qui était beaucoup reprise aux États-Unis pendant le mouvement Occupy Wall Street, qui est un petit peu de la même essence. Merci beaucoup, Gérard. Bon après-midi.
Ben c'est moi qui vous remercie de parler de mon livre.
Au revoir.
Au revoir. Huh?
C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le mois prochain. Il sera alors temps de commencer à choisir les romans qui vous accompagneront à la plage ou à la montagne. Voilà une mission plutôt sympathique. Bonne lecture. À très vite. Bye bye.